France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Est-ce la fin de 6 semaines de guerre dans le Haut-Karabakh? C'est en tout cas le souhait de Vladimir Poutine qui est en train de déployer sur place 2000 soldats russes. Conformément à l'accord de cessez-le-feu, Moscou promet de maintenir la paix dans cette région du Caucase revendiquée par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Arménie qui, depuis la signature de cet accord, connaît une explosion de colère. L'opposition demande en effet des comptes au Premier ministre accusé d'avoir abandonné ce territoire. Porté au pouvoir il y a maintenant 2 ans par une révolution pacifique, le chef du gouvernement est aujourd'hui sous pression. Anissa El Jabri.
Où est passé Nikol Pachinian? Impossible de le savoir, mais le Premier ministre l'assure, il n'a pas quitté l'Arménie. Pour s'adresser au pays en ébullition, le Premier ministre, protégé, réfugié dans un bâtiment inconnu, utilise son moyen de communication favori, les vidéos sur les réseaux sociaux, 10 depuis l'annonce de la fin de la guerre. Sur ces mêmes réseaux sociaux, des sondages en ligne, avec cette unique question en boucle depuis des heures, le Premier ministre doit-il démissionner? Une situation instable, explosive, juge même Nazeni Garibian, ancienne vice-ministre de la Culture de Nikol Pachinian.
La situation est critique. On doit vraiment garder le calme, le sang-froid, maintenir à tout prix la stabilité intérieure. On ne peut pas se permettre un coup d'État en ce moment parce que ça mettrait l'Arménie dans une situation encore pire. Il y a un danger de ça.
Avec sa communication sans cesse triomphale sur le cours de la guerre, jamais Nikol Pachinian n'a préparé l'opinion à une défaite, à cette population sonnée ou en colère. L'opposition propose un changement à la tête du pays. Elle appelle aujourd'hui à une manifestation dans la capitale à la mi-journée, manifestation interdite dans un pays toujours sous loi martiale.
Organisée aujourd'hui et demain à Damas, en Syrie, la conférence internationale sur les réfugiés se tiendra sans l'Union européenne. Pour l'Espagnol Josep Borrell, qui pilote la diplomatie des États membres, ce rendez-vous est prématuré, dit-il, parce que les conditions de retour ne sont pour l'instant pas garanties par le pouvoir de Bachar el-Assad, soutenu, on le sait, par la Russie. Le président syrien, qui contrôle désormais 70% du territoire après 9 années de guerre, considère, lui, que ce retour des réfugiés est une priorité. Plus de 5,5 millions de Syriens vivent aujourd'hui en dehors de leur pays, essentiellement en Turquie, en Jordanie et au Liban, de nous appelle notre correspondant Aurélien Colli.
800 000 Syriens auraient déjà regagné leur pays, selon le régime et son allié russe. Des chiffres très supérieurs aux données des organisations internationales ou non gouvernementales, qui avancent plutôt les 200 000 retours. Et il faut distinguer, pas des retours d'Europe, où selon une enquête de l'Association syrienne pour la dignité citoyenne, 97% des réfugiés se disent bien établis, mais des retours dits volontaires de la Turquie, de la Jordanie et du Liban. 200 000 retours sur 5 millions de réfugiés accueillis par ces trois pays, parce que leurs conditions de vie se dégrade fortement sur fond de crise sanitaire et économique, parce qu'ils subissent aussi des pressions illégitimes des autorités, selon l'organisation Human Rights Watch. Pour autant, malgré cette réalité, malgré aussi l'agenda politique de Bachar al-Assad et de son protecteur russe, le grand retour n'est pas à l'ordre du jour, selon les dernières enquêtes menées dans la région, mais aussi en Occident. Si les 3/4 des exilés syriens veulent rentrer chez eux, la plupart considèrent toujours que les conditions ne sont pas remplies. Priorité pour eux, le démantèlement de l'appareil sécuritaire du régime tant redouté et le départ de Bachar al-Assad.
4 députés pro-démocratie viennent de perdre leur mandat ce matin à Hong Kong. Le gouvernement local applique ainsi à la lettre la nouvelle législation écrite par Pékin, législation qui permet de sanctionner celles et ceux qui menacent la soi-disant sécurité nationale. La fermeture des lycées et de certains collèges, nos confrères du Figaro croient savoir que cette piste de travail est envisagée désormais par le chef du gouvernement. Pas de confirmation pour l'instant de Matignon, ni du ministère de l'Éducation nationale. Jean Castex doit prendre la parole demain soir pour faire le point sur la situation. Un allègement du confinement semble pour l'heure exclu, comme d'ailleurs la possibilité pour les petits commerces de rouvrir assez rapidement. Le président du MEDEF espère malgré tout un assouplissement des règles dès le début du mois de décembre. Geoffroy Route-Bézieux est au micro de Thomas Giraudot.
On a besoin de réouvrir les commerces parce qu'on a des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont en train de mourir. Et on peut pas se permettre de passer Noël, décembre, sans ouverture. Donc Donc l'extrême limite, c'est vraiment le 1er décembre. En termes de mesures sanitaires, il faut prendre un cocktail. Nous, on a proposé de revoir les jauges, en français dans le texte, le nombre de gens par mètre carré. On a proposé de peut-être durcir le protocole, mais qui est déjà très durci, hein. Et puis, il y a peut-être la notion de prise de rendez-vous qui ne convient pas à tous les commerces, mais qui pourrait être mis en place. En tout cas, le message, il faut rouvrir vite. Pourquoi ? Parce que le commerce n'est pas une source de contamination. Ça n'est pas vrai de dire qu'on se contamine dans une librairie. Ça n'est pas vrai de dire qu'on se contamine dans une bijouterie, chez un coiffeur. Alors, il y a quelques cas, bien sûr. Mais pour l'immense majorité, ils ont respecté très scrupuleusement les protocoles sanitaires.
Et puis, je vous rappelle que Maurice Genevoix fera en début de soirée son entrée au Panthéon. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron, qui rendra hommage à cet écrivain académicien qui a immortalisé la mémoire des poilus avec son récit intitulé « Ceux de 14 ». Maurice Genevoix, décédé le 8 septembre 1980, est salué à l'époque comme le premier des écologistes pour, entre autres, ses écrits animaliers. Du brouillard et des nuages ce matin sur le nord et l'ouest du pays. La grisaille cédera la place aux éclaircies au fil de la journée sur le bassin parisien. Le soleil s'imposera en montagne et dans le sud-est. Les températures iront, elles, cet après-midi de 13 à 21 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Le soleil qui s'impose, en voilà une bonne journée, une bonne nouvelle. Bonne journée, Olivier. Et à demain, l'info revient à 13h sur France Musique.
À demain avec plaisir.
À réécouter sur francemusique.fr.